Bonjour. Devant le Parlement européen à Strasbourg, Ursula von der Leyen tient un discours plus vert. L'ancienne ministre allemande doit convaincre pour obtenir ce soir un vote favorable et s'installer à la présidence de la Commission européenne. Une femme, ce serait une première, a-t-elle souligné aussi. C'est l'un des grands projets européens, mais Galileo ne répond plus. Sophie Bécherel, difficile de savoir ce qui arrive au réseau de GPS de pointe.
Les partenaires sont muets depuis l'annonce de la panne par communiqué dimanche. Les infrastructures seules seraient concernées. Antenne de réception, salle de contrôle en Italie, aucune hypothèse n'est écartée.
Contre la pollution de l'air, il n'y a pas d'alternative, prévient l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il faut réduire le trafic automobile. Pour en parler dans ce journal, Guillaume Boulanger, expert à l'ANSES. Pas assez de pluie depuis un an et la canicule de juillet, c'est la sécheresse. 61 départements restreignent l'usage de l'eau, les feuilles brunissent, les épines tombent.
C'est vrai que les arbres ils sèchent sur place et ça, on n'avait pas ça les années précédentes parce que ce sont des peuplements qui sont sur des terrains sans réserve d'eau. Étant donné qu'il fait de plus en plus chaud, ils ont du mal à supporter.
Nous irons donc en forêt, dans la Creuse. Dans ce journal aussi, témoignage d'un ami de Steve Canicio, disparu à Nantes depuis la fête de la musique, et une intervention controversée de la police. Un arsenal saisi dans les milieux d'extrême droite en Italie et à Avignon, quand le festival fait redécouvrir la ville. Une journée sous le soleil, Sébastien Léas.
Oui, et du soleil pour tout le monde pour aujourd'hui, y compris pour la Corse, qui retrouve un temps calme après les pluies torrentielles et les tornades d'hier. Le ciel sera tout de même un peu voilé sur la moitié est du pays, et puis on aura aussi quelques nuages inoffensifs sur les Pyrénées et près des frontières du Nord. Puis les températures sont estivales de 20 à 34 degrés de la Manche à la Méditerranée.
Merci Sébastien. Un point complet sur la météo en fin de journal.
France Inter.
Un grand oral de près de 3 heures. La candidate allemande Ursula von der Leyen a tenté de convaincre les députés européens ce matin de leur vote. Ce soir dépend son accession à la présidence de la Commission de Bruxelles et cela s'annonce serré. Même dans sa propre famille politique, certains élus acceptent mal que le successeur de Jean-Claude Juncker ne soit pas issu des rangs du Parlement européen. La négociation entre les gouvernements de l'Union a été rude pour parvenir au choix de la ministre de la Défense d'Angela Merkel. Ursula von der Leyen a démissionné hier du gouvernement de Berlin. Bonjour Johanna Hochstein.
Bonjour.
Vous avez suivi pour nous le discours de la candidate à Strasbourg. Alors, quels arguments a-t-elle servi? La carte de l'environnement et de la femme notamment?
Alors oui, pour convaincre les derniers récalcitrants, encore nombreux ce matin dans l'hémicycle, Ursula von der Leyen s'est adressée aux eurodéputés en français, en anglais et en allemand avec un premier argument.
C'est avec une grande fierté que je puisse dire c'est finalement une femme qui est la candidate à la présidence de la Commission européenne.
Une femme à la tête de la Commission européenne, une première, une femme pour qui le principal défi de l'Union européenne est le changement climatique. Ursula von der Leyen s'est donc engagée ce matin à réduire de moitié les émissions de CO2 à l'horizon 2030 et de faire de l'Europe le premier continent au monde à parvenir à la neutralité carbone en 2050. Pas de quoi convaincre les eurodéputés écologistes. Philippe Lamberts, coprésident du groupe des Verts.
Là où un changement de cap s'impose à la mesure de la triple urgence sociale, environnementale et démocratique, vous proposez ici une inflexion, là des changements incrémentaux et surtout beaucoup de flou.
Des propositions trop floues aussi pour les socialistes européens, notamment sur le respect de l'état de droit. Les socialistes qui sont la clé de cette élection, s'ils votent en majorité pour la candidate allemande, alors elle devrait l'emporter. Réponse ce soir à partir de 18h.
Merci Johanna Hochstein en direct de Strasbourg. La panne passe totalement inaperçue, même chez ceux qui ont un téléphone dernier cri, qui utilisent le système de positionnement par satellite de Galileo, le GPS européen ne répond plus depuis vendredi soir. Pour les utilisateurs pas trop graves, il y a de fortes chances que votre téléphone se connecte automatiquement au système américain, chinois ou russe. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Quant à obtenir des explications sur ce nouveau couac d'un programme européen à 8 milliards d'euros, là, c'est aussi silence radio.
D'une source proche du dossier, les partenaires du programme phare européen sont tendus mais muets, vous le disiez. Ni les industriels concernés, ni l'agence spatiale européenne, ni l'agence qui gère Galileo n'ont le droit de parler. Depuis le seul et unique communiqué de dimanche. Désormais, la Commission européenne gère la crise, mais sans donner de détails. La panne viendrait des infrastructures situées au sol. Les antennes de réception, les centres de contrôle en Italie, mystère. Tous les appareils qui possèdent le récepteur du signal sont concernés. Ce sont les téléphones dernière génération et parce que Galileo est couplé avec le GPS notamment, la panne est transparente, vous l'avez dit, pour les 700 millions d'utilisateurs recensés. Le service de secours aux personnes n'est cependant pas concerné. Galileo, avec 26 satellites en orbite, dont 22 opérationnels, n'est toujours pas pleinement en service. Il est censé l'être l'an prochain, quand la future Ariane 6 aura lancé les 4 derniers engins de la constellation. La phase actuelle de rodage, avec ses pannes éventuelles, souligne la Commission européenne, permet donc de tester la robustesse du système. À ce stade, de sources proches du dossier, les ingénieurs sont dans le noir complet quant à la cause de la panne. Aucune hypothèse n'est écartée, pas même une éventuelle intrusion externe, autrement dit un piratage.
Merci Sophie Bécherel. On connaissait le danger des particules fines qui étouffent les riverains des grands axes de circulation ou des villes embouteillées. 48 000 morts prématurées en France chaque année. L'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte aujourd'hui sur les particules ultra fines qui ne sont pas contrôlées par les organismes de surveillance de la qualité de l'air. Pour l'ANSES, la solution passera forcément par la réduction du trafic routier. Bonjour Guillaume Boulanger.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes chef adjoint de l'unité d'évaluation des risques liés à l'air à l'ANSES. Alors expliquez-nous d'abord d'où viennent ces particules ultra fines qui peuvent traverser l'appareil respiratoire jusqu'au système sanguin. Là, ce sont encore les moteurs diesel qui sont en cause ou pas seulement ?
Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on s'était intéressé à des particules fines. Et là, la recherche avance. Il y a des nouveaux outils de mesure et on s'intéresse aux particules ultra fines. Ces particules ultra fines ont plusieurs sources, notamment, vous l'avez dit, le trafic routier, mais possiblement aussi l'industrie ou le chauffage résidentiel, le chauffage au bois, dans une moindre mesure. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que ces particules, elles passent l'arbre respiratoire, elles passent l'enveloppe et elles peuvent atteindre la circulation sanguine et notamment le cerveau avec des atteintes qui ont été mises en évidence. Il y a un petit peu de données maintenant dans la littérature qui s'intéressent à la santé neurologique, c'est-à-dire la capacité d'apprentissage ou la capacité de mémorisation des enfants. Et on voit qu'il y a un lien entre la santé neurologique et ces fameuses particules ultra fines. Juste pour illustrer, c'est qu'une particule ultra fine, c'est 5000 fois à 10 000 fois plus petit qu'un grain de sel ou qu'un grain de sable. Donc c'est vraiment très petit et ça peut atteindre le cerveau, mais aussi il y a quelques études qui montrent un effet avec la grossesse et donc il y a des liens entre une exposition à ces toutes petites particules et des naissances prématurées ou des faibles poids de naissance.
D'accord, mais alors au niveau des voitures, l'un des paradoxes, c'est qu'on découvre dans votre étude que les véhicules électriques, par exemple, génèrent aussi une forme d'émission de ces microparticules, ce sont les particules ultra-fines, dans tout type de véhicule.
Oui, alors on s'est intéressé, on a fait un exercice très très riche de en 2025, finalement, si on faisait varier le parc de véhicules roulants, si on mettait plus d'essence ou plus de diesel avec un filtre à particules ou plus de véhicules électriques, quelles seraient les émissions ? Donc on a fait tourner plusieurs scénarios et on s'aperçoit que quel que soit le scénario, on a une diminution de particules en concentration, mais c'est pas suffisant pour améliorer durablement la qualité de l'air. Et pour les véhicules électriques, c'est clair que les diminutions à l'échappement, c'est-à-dire au pot d'échappement, diminuent. Il n'y a pas de moteur à combustion, donc il n'y a plus d'émissions de particules à échappement. Mais par contre, ça reste un véhicule avec des freins. Et donc, quand on utilise ces freins, ça use la plaquette, ça émet des particules ou les pneumatiques, ou ça remet en suspension également des particules.
Alors, vous avez étudié plus précisément le cas de l'agglomération parisienne, la plus peuplée. Que faut-il faire pour améliorer nettement la situation dans les prochaines années ?
Alors, les données que nous avons produites montrent clairement une diminution des émissions de particules lorsqu'on adopte des nouvelles technologies, notamment les filtres à particules pour les diesels, mais c'est un premier pas, mais insuffisant. Donc il faut aller plus loin. Donc encourager les technologies alternatives, notamment les véhicules électriques, même si ça émet par ailleurs d'autres types de particules. Mais surtout, la recommandation la plus importante, c'est de réduire encore le trafic, notamment en encourageant l'usage des transports en commun, les transports actifs type marche à pied, vélo, ou si c'est pas possible, parce qu'il faut le comprendre aussi, c'est parfois difficile de se déplacer sans la voiture, en tout cas d'utiliser l'intermodalité, c'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, on va utiliser la voiture par exemple pour aller jusqu'à la gare, puis le vélo ou la marche à pied. En tout cas de mixer les formes de transport pour utiliser le moins possible la voiture.
Mais en clair, donc pour vous, effectivement, sans réduire la part de la voiture en ville, on ne s'en sortira pas. Et la prime à la casse, l'interdiction des voitures les plus polluantes dans Paris, aujourd'hui, ça ne suffit pas.
Non, les scénarios nous montrent clairement que ça ne suffit pas. C'est un pas important, donc il faut le souligner. Mais c'est insuffisant pour être en dessous des valeurs sanitaires pour les particules élaborées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc il faut aller plus loin dans les efforts, les amplifier. Et notamment, ça passe par la réduction du trafic routier.
Merci beaucoup Guillaume Boulanger de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Baisser de 40% l'utilisation d'énergie fossile d'ici 2030, c'est justement l'objectif ambitieux du projet de loi énergie et climat que François de Rugy vient défendre au Sénat cet après-midi. Mais le débat risque d'être pollué par la polémique autour de ses repas fastueux quand il était président de l'Assemblée. Le ministre s'attend à passer sur le grill. Le Sénat doit aussi adopter de manière définitive la création de l'Office français de la biodiversité. Il aura du travail. La semaine dernière encore, on apprenait qu'en France, une espèce de poisson d'eau douce sur 5 était menacée par le réchauffement et les activités humaines. Mais la particularité, c'est que ce nouvel office réunit les chasseurs et les défenseurs de la nature. La loi a fait l'objet d'un intense lobbying de part et d'autre. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Presque un an après la démission de Nicolas Hulot, c'est un texte de compromis qui est voté. Est-ce qu'il est équilibré ?
Écoutez, pendant longtemps, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a refusé de fusionner avec l'Agence française de la biodiversité. Et pour le convaincre, il a fallu faire un certain nombre de concessions. Par exemple, la division par deux du prix du permis de chasse nationale, un cadeau aux chasseurs qui exaspère plusieurs gestionnaires d'espaces protégés, dont la Fédération des parcs naturels régionaux de France, son président Michaël Weber.
Le gouvernement a procédé à une baisse du permis de chasse. Il a compensé cette baisse-là par la création d'un fonds qui aujourd'hui est de 11 millions d'euros. Et de surcroît, ce fonds-là n'est pas géré, si vous voulez, par l'Office français pour la biodiversité, mais sera géré par les chasseurs eux-mêmes. Alors qu'à l'inverse, si je regarde la politique des parcs naturels régionaux qui est de 7 millions d'euros, elle est restée stable, elle a même été en diminution sur les dernières années.
Les chasseurs ont dû renoncer à certaines exigences. Ils voulaient que le mot chasse figure dans le nom du nouvel établissement public. Ils demandaient aussi la création d'un délit d'entrave à la chasse. Ces deux mesures, adoptées en avril dernier par le Sénat lors de l'examen du projet de loi, ont depuis été retoqué. L'Office français de la biodiversité verra le jour le 1er janvier prochain, 3000 agents sous un même uniforme, avec la délicate tâche, on le voit, de faire cohabiter deux visions différentes de la préservation de la nature.
Merci Sandy Dauphin, spécialiste environnement à France Inter. Aujourd'hui à Rennes, justement, 5 hommes qui participaient en février à une chasse à cours, des suiveurs, sont jugés en correctionnel pour violence en réunion sur deux militants anti-chasse. Le magasin emblématique de Barbès à Paris gardera bien son enseigne Vichy Rose, mais 13 autres magasins Tati vont fermer et une centaine d'autres passeront sous le pavillon de Jiffy, l'enseigne de meubles et de décoration. C'est ce qu'annonce ce midi le groupe GPG, propriétaire des deux marques. 189 postes sont supprimés, des reclassements promis. 61 départements ont déjà pris des arrêtés pour économiser l'eau. La sécheresse menaçait avec un déficit de pluie sur une grande partie est de la France et la canicule du mois de juillet a grillé des cultures ou des arbres. Si vous cherchez la fraîcheur en forêt, vous l'avez peut-être remarqué, nos amis les arbres ne sont pas du tout épargnés. Morgane Euclin-Refait l'a constaté à l'arboretum de la forêt de Chabrières dans la Creuse.
Vous voyez les feuilles du chêne là qui sont déjà en train de se recroqueviller? C'est dû à la chaleur, c'est dû au manque d'eau.
Un chêne desséché. Plus loin, Ludovic Chavalarias de l'Office national des forêts repère un sapin sans épines.
C'est vrai que les arbres ils sèchent sur place et ça on n'avait pas ça les années précédentes parce que ce sont des peuplements qui sont sur des terrains sans réserve d'eau. Ben, étant donné qu'il fait de plus en plus chaud, ben, ils ont du mal à supporter.
Et pour les résineux comme les épicéas, c'est la double peine. La chaleur les dessèche et fait proliférer certains insectes nuisibles.
Quand il fait chaud, ben, là ils pullulent. Nous avons des peuplements d'épicéas qui sont en train de sécher dû aux attaques de scolytes. Et lorsqu'on voit qu'ils sont complètement secs, c'est trop tard déjà.
Il faudra alors les couper. L'impact de la sécheresse est encore plus rapide que prévu. De quoi inquiéter le technicien forestier et les promeneurs qu'il guide comme Ophélie.
Ce qui est alarmant, c'est qu'on n'a pas encore passé toute la chaleur. On commence juste vraiment d'avoir les grosses chaleurs et Malgré ça, les arbres sont quand même abîmés.
Marinette le constate à chaque balade.
On commence à voir les arbres qui deviennent marrons. Hein. Donc quand on voit le marron qui arrive, on se pose beaucoup de questions. Les arbres peut-être disparaîtront un jour, certaines variétés en tout cas, s'il y a une sécheresse trop importante.
Le risque, c'est bien que le paysage des forêts creusoises se rapproche de celui du sud de la France si les épisodes de sécheresse s'accentuent.
Deux hommes ont été tués dans une fusillade qui ressemble à un raid règlement de compte la nuit dernière à Stain, en Seine-Saint-Denis. Deux hommes à scooter ont tiré sur une voiture stationnée devant un hall d'immeuble. Où est Steve ? La question angoisse ses proches et prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Steve Canicio, 24 ans, a disparu depuis cette soirée techno du 21 juin à Nantes. Sur le quai Wilson, la police disperse les fêtards qui veulent jouer les prolongations au petit matin et dont certains lancent des projectiles. Grenades lacrymogènes, lanceurs de les forces de l'ordre n'y vont pas de main morte. Au moins 14 personnes sont tombées dans la Loire. Steve n'a pas reparu depuis. Tous les jours, ses amis se réunissent. Kay Wilson, notre reporter Sébastien Sabiron, les a rencontrés. Parmi eux, Pips, 21 ans. Il ne comprend pas le quasi-silence politique autour de cette disparition.
On est dans un silence politique où la maire de Nantes, le préfet, ils osent pas sortir de leur cage. Ils ont peur d'en parler. Alors ça nous énerve parce que on aimerait bien qu'on nous dise, ben voilà, les recherches, elles en sont là. Au bout de 25 jours, on aurait peut-être espéré avoir au moins une petite piste, X truc qui pourrait faire avancer les choses. Mais non, je trouve que ça se ramène aussi à toutes les violences qu'il y a eu dernièrement avec les gilets jaunes, avec toutes les manifestations. On a plusieurs personnes, des milliers de fêtards, des vieux, des jeunes, des enfants qui étaient présents à cette fête de la musique, qui ont subi une répression que personne ne sait d'où elle vient, et ça me révolte, ça me rend triste. Ils nous protègent, certes, de certaines choses, mais il y a des limites à certaines actions que la police, elle devrait savoir gérer. Et elle devrait savoir aussi dire non sur certaines choses.
Une information judiciaire est ouverte à Nantes sur la disparition de Steve Canicio. Le défenseur des droits s'est aussi saisi de l'affaire. Quatre personnes, dont le militant indépendantiste Charles Pierry, ont été arrêtées ce matin en Haute-Corse dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux. Annonce de la procureure de Bastia qui précise que des armes de poing ont été découvertes chez Charles Pierry. Sciences Po Paris dénonce ce midi l'arrestation inadmissible et révoltante de sa chercheuse Fariba Adelha. L'anthropologue réputé de 60 ans, a été arrêté le 5 juin et serait détenu dans la prison d'Evine au nord de Téhéran, sans explication pour le moment des autorités iraniennes. C'est un véritable arsenal que la police italienne a saisi hier chez des militants d'extrême droite à Rivanazzano Terme, au sud de Milan. Une vingtaine de fusils, des dizaines d'armes de poing et même un missile français RR, en clair, qu'on ne peut lancer a priori que depuis un avion et qui semblait plutôt destiné à la revente. Le tout stocké avec des objets de propagande néo-nazie. Et ce n'est pas la première fois, Mathilde Imberti, que cette mouvance italienne inquiète les autorités.
La police a interpellé trois personnes dans le cadre de cette enquête. Un Suisse et deux Italiens, dont un ancien inspecteur des douanes de l'aéroport de Milan, 60 ans, ex-candidat au Sénat pour le parti Forza Nuova au début des années 2000. Cette formation d'extrême droite s'est immédiatement déclarée étrangère à l'affaire. Sur la scène internationale, elle exprime un fort penchant pour le nationalisme russe et l'enquête menée à Turin porte d'ailleurs au départ sur des suspects ayant combattu aux côtés des rebelles pro-russes en Ukraine. Elle s'est traduite en plusieurs raids ces dernières semaines dans le nord de l'Italie, jusqu'à cette découverte d'un véritable arsenal de guerre dans un hangar près de Pavie hier. Des fusils d'assaut y étaient stockés, une mitraillette, des articles de tir et donc ce missile d'un poids de 245 kg de fabrication française en parfait état de marche. Malgré le caractère exceptionnel de la saisie, l'antiterrorisme italien souligne que rien ne fait penser à des projets subversifs de la part des personnes interpellées. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
En République démocratique du Congo, l'épidémie du virus Ebola a atteint la grande ville de Goma. Le cas qui avait été diagnostiqué, le malade est décédé officiellement aujourd'hui. Cela change potentiellement toute la donne, alerte l'Organisation mondiale de la santé qui sonne le branle-bas de combat contre la fièvre hémorragique, déclarée urgence sanitaire mondiale. Et si, au Festival d'Avignon, on prenait le temps de voir Avignon entre deux spectacles dans le In ou le Off, une compagnie fait sortir les festivaliers du théâtre et a demandé à des habitants de leur raconter leur ville. Stéphane Capron a aussi mis son casque sur les oreilles.
Bienvenue pour cette déambulation sonore de la compagnie L'Hôtel du Nord. Vous allez voir que la déambulation est lente, c'est son rythme, c'est voulu, ça va vous paraître peu naturel au début. Profitez-en.
Pendant 10 jours, Lolan et Marc et son équipe ont demandé à des Avignonnais de raconter leur ville.
Peut-être que des passants vous regardent
et se demandent ce que vous écoutez avec votre gros casque.
Chaque spectateur déambule à son rythme au milieu des festivaliers, souvent pressés.
Parce que généralement, les gens qui viennent là, au théâtre Avignon, les Avignonnais pour eux n'existent pas.
La rumeur ambiante du festival se fait sentir à nouveau.
Lola Neymarck veut penser la ville autrement.
C'est la démarche de Perret qui va dans ce sens, c'est-à-dire de ne pas considérer la ville comme un grand tout un peu effrayant, froid, mégalopole, mais plutôt de la prendre par le petit bout et d'essayer de retrouver des espèces de sensations perdues, d'odeurs, de textures, de bruits.
Monica vient d'Hazebrouck, dans le nord, cette festivalière a pris le temps de flâner.
On a l'impression que, en fait, le soir, quand on n'a plus de spectacle, on fait des balades. J'ai l'impression que je fais toujours les mêmes rues et il y a toujours du monde, du monde, du monde. Et là, du coup, on a découvert vraiment un autre visage. Donc je vois vraiment indifféremment Avignon. On a l'impression qu'on devient habitant.
Vous entendez presque le battement de votre cœur, celui de vos voisins.
Voilà, cela s'intitule « Les rues n'appartiennent en principe à personne ». C'est à découvrir jusqu'à vendredi à Avignon dans le cadre de la programmation de la Seine-Saint-Denis. Il y a 3 départs dans l'après-midi à partir de 17h.
La météo avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Du soleil pour tout le monde, Sébastien Léas, sous un ciel légèrement voilé.
Le temps est sec et bien calme sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, quelques petits nuages se développent dans le ciel bleu, sur les Pyrénées, mais aussi en Bretagne et sur le sud de la Corse. Près des frontières de la Belgique, ce sont les grisailles matinales qui évoluent en cumulus, permettant le retour de belles éclaircies. Un voile nuageux, parfois épais, traverse aussi le ciel de l'Hexagone, se décalant vers l'est cet après-midi et s'étendant de la Champagne-Ardenne et la Lorraine au Berry et au Lyonnais jusqu'en Auvergne et à la Provence, avant de gagner la façade orientale du pays en fin de journée. Partout ailleurs, le ciel est quasiment tout bleu et le soleil l'emporte largement. Avec ce soleil généreux, les températures retrouvent partout des valeurs de saison. Cet après-midi, il fait 24 degrés à Lille, 25 degrés à Brest et Biarritz, 26 degrés pour Rouen et Metz, 27 degrés à Paris et à Aurillac. On ira jusqu'à 30 degrés à Lyon et Cognac, 31 degrés à Toulouse et Marseille et 33 degrés pour Nîmes. À noter que le vent est sensible sur les côtes de la Méditerranée.